Podcast.
La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. If you can dream it, you can do it. Si tu es capable d'en rêver, tu dois pouvoir le faire. Nous partons ce matin sur les traces de jeunes Belges qui ont réalisé leurs rêves américains ou européens. Les States tout d'abord, avec Ariane Van Die Voet et Jérémy Levan à New York, la ville qui ne dort jamais comme eux, que je tire ce matin du lit. Aux aurores, bonjour, bonjour Ariane, bonjour Jérémy.
Bonjour Adrien.
Bonjour Adrien.
Et félicitations, parce que je crois que vous êtes mariés le week-end dernier, c'est exact ?
Oui, voilà. Tout à fait.
Et puis vous êtes tous les deux à la tête de belles success stories. Ariane, vous avez fondé votre marque de design Avandie, ce sont des bijoux, du mobilier, des objets étonnants.
Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a à peu près 3 ans maintenant que j'ai créé cette société aux États-Unis.
On a mis quelques objets, quelques photos de vos créations en ligne sur lapremière.be. Et vous, Jérémy, entrepreneur technologique, vous avez créé l'application Sunrise, revendue il y a quelques années à un certain Bill Gates, je suis bien renseigné.
Oui, tout à fait, ouais. Microsoft.
Félicitations tous les deux. Je vous laisse prendre un grand café, une bonne douche froide, parce que là, c'est la pleine nuit. On sent encore la voix un peu engourdie après un samedi de fête, peut-être là-bas. On va raconter votre parcours tout au long de cette émission, réalisée en duplex avec une jeune femme qui a fait le chemin inverse. Bonjour Sandrine Dixon.
Bonjour Adrien et bonjour Jérémy et Ariane.
Bonjour.
Bonjour Sandrine.
Bonjour Sandrine.
D'origine américaine, vous vivez en Wallonie, mais vous travaillez pour une agence des Nations Unies spécialisée dans le développement durable de l'énergie. Donc vous faites, j'imagine, de fréquents allers-retours pour New York, le siège des Nations Unies ?
Absolument, et en fait j'y reviens. Donc voilà, j'y étais la semaine dernière.
Alors vous vous êtes croisés peut-être dans le ciel parce que vous étiez en Belgique pour vous marier, Jérémy, Ariane ?
Tout à fait, exactement.
Alors pour chroniquer cette émission, celle qui suivra pour nous la course à la Maison Blanche, good morning Catherine.
Hello Adrian.
Oh, je vois que vous êtes parfaitement entraînée pour ce grand voyage qui va vous emmener pour plusieurs semaines outre-Atlantique.
Voilà, pour 3 semaines à la découverte des États-Unis et de sa population, surtout avant une échéance de taille dans le pays, le 8 novembre prochain, l'élection présidentielle américaine.
Et ce matin, c'est le warm-up sur la première.
Tout à fait.
Les Belges du bout du monde sur la première.
On va commencer par résumer le parcours de nos Belges du bout de New York avec la carte postale sonore de Loïc Péchard.
C'est votre voiture là ?
Ouais, ouais.
La Jaguar ?
Ouais, ouais.
Mais vous gagnez combien ?
J'en sais rien, $72,000 le mois dernier.
Si vous me montrez une fiche de paie avec 72 000 dessus, je quitte mon job illico et je bosse pour vous. Et je démissionne.
Ah, le rêve américain. C'est l'idée que tout le monde peut avoir une nouvelle vie plus aisée aux États-Unis avec son travail, son courage et sa détermination.
Gagne ton ticket pour le rêve américain.
J'ai prouvé à tout le monde que je suis pas un loser.
22 millions en 3 heures.
Chacun a des possibilités d'atteindre le sommet et présente les mêmes chances de réussite dans le travail.
Avec ce manuel, je vais apprendre à chacun d'entre vous à devenir le meilleur.
Nous sommes la meilleure société au monde !
Je devenais une légende.
L'esprit de compétition se traduit par un perfectionnisme soutenu. Dans ce rêve, il y a plusieurs valeurs, celles liées à la rentabilité, l'efficacité, le travail effréné, la prospérité, la créativité, la liberté, mais aussi des valeurs morales comme le bien, le mal, l'importance de la famille et la croyance en Dieu.
J'adore 3 choses. J'adore mon pays, j'adore Jésus et j'adore rendre les gens riches. Allô ?
Allô, les Américains, j'ai des problèmes avec mon voisin.
À À l'époque des Indiens d'Amérique ou aujourd'hui, les nouveaux arrivants doivent toujours se battre pour réaliser ce rêve, car les places sont chères.
Qu'est-ce que ce sera merveilleux en Amérique quand on n'aura plus aucun souci à se faire.
De nombreux Belges s'y sont installés, c'est le cas d'Ariane Van Die Voet et de Jérémy Levan. Elle a créé sa boîte de design Avendi.
Des millions de filles tueraient pour être à votre place.
Et lui, l'application Sunrise, qu'ils vont à une grosse entreprise qu'on ne citera pas.
It's up to you, New York. New York.
Ils font carton plein à New York.
Yes, we can.
À chapeau, on y est, hein, avec cette carte postale de Loïc Péchard, Paul Michel. Vous êtes reconnu dans ce diable qui s'habille en Prada, dans cette petite allusion au film ?
Bah oui, pour tout ce qui est de la détermination et de voilà de la quantité de travail requise. C'est vrai que voilà, moi, je suis dans un tout autre environnement et tout autre quartier aussi, puisque je travaille dans le quartier de Redouk, un quartier un peu plus cool, mais c'est là où justement, pas mal de jeunes designers essayent de percer et s'installent pour créer, quoi.
Ouais, il paraît que c'est le Manhattan du 21e siècle, que ça déborde d'énergie et de créativité. Puis il y avait un petit clin d'œil de Jérémy aussi qui a revendu son application. Les chiffres cités sont exacts, Jérémy ?
Oui, tout à fait.
D'accord, d'accord. Alors moi, j'adore le contraste entre votre voix, mais on sent quelqu'un d'humble, vraiment de à la limite timide. Et vous êtes multimillionnaire, Jérémy, non ?
Oui, tout à fait. Mais bon, voilà. Je pense que le plus important dans tout ça, c'est de rester soi-même, non ?
Ouais, ouais, ben joli.
Je pense que c'est peut-être, je sais pas, notre côté belge qui ressort du coup.
Oui, oui. Ça vous marque aussi, Sandrine Dixon, vous qui êtes d'origine américaine, qui vivez en Belgique, c'est que le Belge, il a du talent, mais il est humble, quoi. Il le dit pas trop fort.
Je trouve qu'un peu d'humilité est toujours une très bonne chose.
Oui, donc c'est bien. C'est
absolument,
bien.
Oui, oui, oui. Absolument.
Alors, même si l'American Dream a du plomb dans l'aile et qu'il risque même de tourner au cauchemar, on en parlera tout à l'heure, on va continuer à rêver un peu et raconter vos success stories. La vôtre d'abord, Ariane, vous avez grandi chez nous. À 18 ans déjà, vous preniez le large. D'abord, vous êtes partie de l'autre côté de la Manche.
Oui, voilà, c'est ça. À 18 ans, bah, en fait, je voulais... comme beaucoup de jeunes, faire une sorte d'année sabbatique ou partir un peu apprendre l'anglais et peut-être commencer à me former. C'est vrai que moi, je venais de l'option latin-grec à Bruxelles, donc je n'avais pas vraiment, même si j'avais comme déjà la fibre artistique, je n'étais pas sûre d'avoir les qualités requises et tout ça, et je voulais un peu tester tout ça pendant un an. Ouais. Lorsque j'ai été reprise à la Chelsea College of Art and Design, ben, j'ai sauté sur l'occasion, quoi. Voilà, après je suis repartie à Rhode Island, qui est le plus petit état des États-Unis, tout près de Boston, du Massachusetts, pour vraiment entamer cette aventure américaine.
Ouais, et puis toucher un petit peu aux matériaux, le bois, la bijouterie, vous travaillez de vos mains, vous travaillez de votre tête, vous faites preuve de culot, d'audace, vous avez fondé votre boîte en 2014.
Je travaille avec une entreprise en Californie, une autre dans le Minnesota.
Ouais.
Donc c'est vrai que c'est plus beaucoup de collaboration avec pas mal de gens en fait, et beaucoup d'hommes en fait, donc vous le disiez, oui, une femme chef d'entreprise, surtout dans le monde de la fabrication, voilà, il faut un peu se faire respecter. Mais,
oui, oui, très bien, très bien, ça donne le sourire à Sandrine Dixon, vous êtes admirative là. Hein, vous...
Ouais, je suis admirative, et puis d'un autre côté, je dois dire que moi aussi mon parcours a été souvent plutôt avec des hommes qu'avec des femmes, donc je connais bien ce dilemme. Mmh. Travaillant dans le domaine de l'énergie avec beaucoup d'ingénieurs, j'ai commencé ma carrière étant une des seules femmes en fait.
Ouais, oui. Puis vous partagez un point commun avec Jérémy et Ariane, c'est la Californie. C'est là que vous avez grandi, Palo Alto ?
Absolument. Où a commencé en fait tout ce boom technologique ?
Oui, oui, oui. On en reparlera tout à l'heure, évidemment, avec Jérémy. Voici maintenant un des 10 morceaux les plus téléchargés cette année aux États-Unis. Leon Bridges, c'est un auteur-compositeur originaire du Texas et qui donne dans le gospel. Écoutez, c'est superbe.
«
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
C'était Leon Bridges sur la première avec Coming Home, Home Sweet Home. Votre maison, Ariane Van Diewoud, ben, c'est devenu New York maintenant?
Ben oui, voilà. C'est vrai que en rentrant à New York récemment, vu qu'on vient de passer un peu de temps en Belgique, on se rend compte que oui, c'est chez nous, à la fois notre petit nid et à la fois on s'est fait pas mal d'amis. Puis voilà, tout ce qui est boulot et tout se trouve ici. Donc c'est vrai que quand on part en Belgique, c'est souvent un peu les vacances. Et puis et voilà, là on rentre à la maison.
Ouais. Et c'est révélateur, Sandrine Dixon, de la mentalité des immigrants aux États-Unis. Ils veulent s'intégrer, ils sont fiers de devenir américains.
Oui, moi je crois que mes parents, quand on a immigré aux États-Unis, ils voulaient tout faire pour s'intégrer. Mais d'un autre côté, je trouve que les Européens en particulier aiment beaucoup quand même garder ce petit grain européen et retourner souvent chez eux. Et donc, je trouve que pour finir, on se sent toujours un peu européen quand même aux États-Unis.
D'ailleurs, Avandi, c'est aussi made in Belgium, hein, on va le dire.
Je pense que dans mes designs, ça se sent que je suis belge, européenne. Il y a un peu le petit côté Europe du Nord qui ressort, je pense.
Ah ben voilà, ça fait plaisir. Ariane Van Diewoud, belge aux États-Unis depuis 8 ans. En duplex avec Sandrine Dixon, américaine à Bruxelles. Depuis 30 ans, ce sont nos Belges du bout du monde ce matin sur la première.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
Catherine Tonero, les yeux du monde entier sont rivés sur les États-Unis en cette année d'élection présidentielle.
Le nom du 45e président ou présidente du pays de l'oncle Sam sera connu dans un mois et demi environ, le 8 novembre prochain. Un scrutin inédit à plus d'un titre, on va en parler. Ce sont probablement les élections les plus attentivement suivies à travers le monde, car les États-Unis, ils donnent le là hein, sur la planète, superpuissance politique, économique, militaire et culturelle. Un géant qui s'étend sur plus de 9 millions de kilomètres carrés, 300 fois la Belgique, pour 50 États qui pourraient chacun être un pays à part entière. Avec 320 millions d'habitants, les États-Unis sont le troisième pays le plus peuplé et probablement métissé au monde, vu la grande tradition d'immigration qui a façonné son histoire.
Un pays devenu indépendant le 4 juillet 1776.
Terre d'Indiens conquise par les Européens, les États-Unis deviennent la première nation décolonisée du monde. À cette époque, on célébrait cette année les 240 ans de la déclaration d'indépendance de la couronne britannique. Alors on ne va pas refaire toute l'histoire. Depuis, dans l'ordre, la conquête de l'Ouest, la guerre de sécession, le développement industriel lié aux guerres mondiales, la Grande Dépression, la guerre froide. Les Américains ont de tout temps pris part aux grands conflits mondiaux. On citera aussi la guerre de Corée, du Vietnam, du Golfe évidemment. Et puis le 11 septembre 2001, les États-Unis sont attaqués sur leur territoire pour la première fois. Ils se lancent cette fois dans la guerre contre le terrorisme en Afghanistan, en Irak, et les États-Unis qui mènent aussi la coalition internationale en Syrie depuis 2014.
La superpuissance militaire qui est aussi la première économie mondiale. Nous en reparlerons dans une poignée de minutes. Mais un mot d'abord sur la situation en septembre 2016 à New York. Ariane Van Diewoud, vous vous sentez en sécurité?
Je viens d'avoir un petit souci à Chelsea, qui était le quartier où on habitait avant l'explosion. Mais c'est vrai que étonnamment, je pense que la ville est tellement grande, il s'y passe tellement de choses que voilà, on se dit qu'il faut continuer à vivre normalement et on n'a pas trop peur, je pense. Ce qui nous fait peut-être un peu plus peur, c'est justement la situation politique, quoi, ce qui va se passer en novembre prochain.
Vous êtes porte-parole pour les démocrates américains à l'étranger, Sandrine Dixon.
Oui, absolument. Et il faut noter aussi que quand on parle en fait des électeurs qui peuvent voter, il faut compter tous les électeurs à l'extérieur des États-Unis aussi, qui comptent pour le vote. Et pour nous, c'est absolument essentiel qu'on les amène à voter. Et c'est vraiment notre grande campagne pour l'instant, que tout le monde place un vote. Parce que comme Ariane l'a très bien dit, on est fort inquiet de ce qui se passe au niveau de notre compatriote Donald Trump.
Ne vous trompez pas en votant alors, voilà. Les Américains de Belgique. Il y a beaucoup d'Américains à l'étranger qui vont pouvoir participer à ce vote. Vous avez une idée du chiffre ?
6,7 millions d'Américains qui sont à l'étranger qui peuvent placer un vote.
Catherine Tonero, vous êtes en plein préparatif pour cette course à la Maison Blanche. Comment ça va se passer ?
Eh bien, on part dans quelques jours, le 30 septembre, pour trois semaines à sillonner le pays. On est trois, avec trois routes donc de dessinées. Moi, je prendrai la route du Nord. Je commence mon périple à Seattle, Portland, Salt Lake City, puis un bond jusque Minneapolis, Chicago, parce que le deuxième prendra la route Est et le troisième la route Sud. On se retrouve à la fin de ces trois semaines à Washington.
D'accord, bah vous serez pas très loin de chez Ariane et Jérémy.
Oui, tout à fait. C'est vrai que New York n'est pas sur mon parcours à moi.
Washington, c'est pas loin.
Oui, voilà, tout à fait. En tout cas, je donnerai votre contact au candidat qui empruntera la route Est.
On va revenir à votre parcours. Est-ce que ça a été plus facile de réaliser votre rêve, finalement, de créer votre entreprise aux États-Unis ? Est-ce que pour un jeune entrepreneur, une jeune femme comme vous, il y a peut-être plus d'incitants, de facilitateurs ?
Oui, je pense que c'est plus simple aux États-Unis. Ça m'a pas, moi, ça m'a pas paru insurmontable et je pense que pour tout ce qui est justement l'embauche et vraiment la facilité de travailler avec des acteurs différents, c'est aussi plus simple qu'en Belgique. Je pense que voilà, il y a du pour et du contre dans les deux systèmes, mais c'est vrai que ça pousse, je pense, de ce côté-ci, ça pousse vraiment à l'entrepreneuriat et en fait, de prendre des risques. On voit pas mal de gens autour de nous, en fait, qui créent des startups, qui se lancent et qui, voilà, il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marche pas. Mais il y a un peu ce côté, on essaye et voilà, si ça ne marche pas, ben on recommencera autre chose. Ou il y a pas tellement de stigmatisation, je trouve. Dans le cas où ça ne marche pas.
Ouais. C'est Franklin Roosevelt qui disait, je crois, faites quelque chose et si ça ne réussit pas, essayez autre chose. Et finalement, ça finit par passer, à force d'y croire et d'obstination. On va écouter un extrait de la vidéo où vous présentez votre travail.
To me, being a designer today means it's all about the relationship to humans and to the body and how people are eventually going to use my designs. My name is Ariane van de Voet and I'm a designer. I'm the founder of Avandi, a studio where I design lighting, furniture, jewelry and spaces.
Ariane van de Voet, créatrice d'Avandi aux États-Unis. Elle travaille à Brooklyn. C'est un peu le Manhattan nouveau, un quartier hyper branché, peut-être le plus branché des cinq boroughs de New York, Ariane.
Oui, c'est ça, je pense. C'est vrai que pendant un moment, on disait que c'était up and coming. Là, je pense que ça y est carrément, quoi. Je pense que Brooklyn, niveau créativité, il s'y passe énormément de choses, que ce soit en art, en design, enfin tout ce qui est création en fait. Donc c'est assez excitant en fait de vivre ici parce que on rencontre plein d'autres gens qui entreprennent ou qui travaillent pour d'autres personnes, mais qui vraiment sont passionnés par ce qu'ils font, quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment un boost.
Alors j'ai vu un extrait de votre catalogue sur Internet, il y a des choses vraiment étonnantes qu'on peut fixer sans clou ni vis. Vous pouvez nous présenter un petit peu vos productions en quelques mots, Ariane, qu'est-ce que vous fabriquez ?
Je voulais créer une petite ligne de mobilier pour les gens qui voudraient commencer à se dire « Tiens, mais je vais commencer à investir, à acheter des pièces que je gardais sur le long terme. » Et donc c'est pour ça, par exemple, j'ai un set de petites tables basses modulables qui sont montables à la main, en fait. Il faut, c'est juste trois petites vis, mais on n'a pas besoin d'outils pour les assembler. Et donc, voilà, l'idée, c'est on déménage, hop, on les démonte, on les prend avec nous. Et comme c'est des triangles, on peut, quand on en a plusieurs, on peut en créer une plus grande table. Donc, c'est toujours cette idée de s'adapter à un nouvel espace, de créer des choses nouvelles et de pas trop tomber dans cette culture de
jetable.
Voilà, jetable. Ouais, ouais.
Avec un mode d'emploi en plus en suédois.
Et
il faut trois jours pour le monter. Une fois qu'il est démonté, on ne sait plus le remonter. C'est ça le problème.
Exactement.
Aussi. En tout cas, on vous félicite pour ce bourdonnement créatif, pour ces créations complètement originales. Ariane van de Voet, bonne continuation. Dans un instant, Ariane, on va parler avec votre mari, Jérémy. Le van, il ne s'est pas rendormi, Jérémy ?
Non, il est là.
D'accord. Et puis, on le retrouve après une page de pub. Bonne continuation.
Merci. À bientôt.
9h-10h,
les Belges du bout du monde sur la première,
avec Adrien Jouvenot.
Merci de bruncher avec les Belges du bout du monde ce matin. Nous sommes aux États-Unis avec Ariane Van Dievoet, hein, que vous avez entendu, créatrice de mode et de design. Et puis bientôt Jérémy Levan, son mari, concepteur de l'application Sunrise et directeur design chez Microsoft. Ce sont deux jeunes qui pourraient bien décrocher un des prochains trophées des Belges du bout du monde. Et alors, si vous connaissez d'autres Belges particulièrement créatifs, méritants, généreux, enthousiastes, faites-le nous savoir. Toutes les infos pour nous contacter et pour s'inscrire sont en ligne sur rtbf.be/trophée des Belges. Cocorico, il y a des talents chez nous, au bout du monde, mais le Belge doit le faire savoir. On en reparle évidemment avant la fin de cette émission.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Il est important d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit, disait Oscar Wilde lors de son séjour à New York en 1882.
J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City.
New York où vit depuis 5 ans Jérémy Levan après un crochet par la VUB, Jérémy, par UCL et par San Francisco. Je crois que c'est là que vous vous êtes formé.
Après avoir étudié la publicité et le graphisme, d'ailleurs je ne savais pas que c'était des études en fait à la base parce que j'avais commencé le marketing à Bruxelles. Je me suis dirigé vers les technologies un peu plus pointues et j'ai un peu atterri à San Francisco par hasard en fait. Donc avant, on va dire tout ce qu'on entend aujourd'hui avec les Apple, les Google de ce monde. Donc voilà, je me suis retrouvé un peu au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes.
Ouais, juste avant la vague, quoi. Donc c'était bien, ça. On avait pu en profiter et surfer dessus. Bravo. Je lis dans Le Soir, Jérémy Levan, 7 ans aux États-Unis et multimillionnaire. Microsoft aurait déboursé plus de 100 millions de dollars pour acheter votre application Sunrise. Est-ce qu'il faut croire ce qu'on dit dans les journaux, Jérémy ?
Avec des pincettes, mais oui, tout à fait, c'est exactement ça.
Pas mal, pas mal, pas mal. Vous êtes tombé sous le charme de la Silicon Valley, puis maintenant vous êtes sur l'autre côte, hein, la côte est des États-Unis. On va continuer à présenter cette première économie de la planète, Catherine Tonero.
Bah oui, près de 18 milliards de dollars, c'est le plus gros PIB du monde.
C'est pas le salaire de Jérémy Levan, non, c'est le PIB américain, on précise.
Voilà, en 2015 du moins, une économie qui tire parti d'un territoire aussi immense que ses ressources minières, agricoles. De nombreuses industries de pointe, de multinationales sont américaines. La population active travaille surtout dans les services. Une main-d'œuvre est parmi les plus productives au monde. Les Américains sont des travailleurs, ils sont surtout des consommateurs, garants de la croissance du pays. Les États-Unis qui sont aussi les plus grands importateurs de biens. La machine, on le sait, s'est grippée en 2008 avec la crise des subprimes. Des millions d'emplois sont détruits. Quelques années et un plan de relance plus tard, le pays a sorti la tête de l'eau. La baisse du chômage est d'ailleurs présentée comme un des grands acquis de l'administration Obama en fin de mandat.
Avant d'en venir au duel entre Hillary Clinton et Donald Trump, un petit détour justement par le bilan des années Obama.
Oui, aux commandes du pays depuis novembre 2008. Et pour quelques semaines encore, donc, Barack Obama peut se targuer d'avoir fait aboutir sa réforme santé pour une couverture universelle ou presque. C'est l'Obamacare en 2010. Autre temps fort de sa présidence, la capture de Ben Laden en 2011 et le retrait d'Irak. Plus récemment, l'accord historique sur le nucléaire iranien et le rétablissement des relations diplomatiques avec Cuba. Sa politique extérieure au Proche-Orient et en Syrie surtout sont plus critiquées. Barack Obama avait aussi promis de fermer la prison de Guantanamo, processus actuellement dans l'impasse. Un contrôle plus strict des armes à feu aussi, un cheval de bataille inachevé dans un pays où 30 000 personnes sont tuées par balle chaque année. On lui reproche enfin de ne pas avoir réussi à réduire réellement les inégalités sociales, toujours très marquées aux États-Unis où le rêve américain a tourné court pour beaucoup.
Pour beaucoup, c'est vrai. Ce rêve a viré au cauchemar. Hein. L'assurance maladie, la sécurité sociale, c'est une des grosses différences entre nos deux pays, Sandrine Dixon.
Oui, ça je crois que c'est quelque chose qui est vraiment très perturbant en fait. Mais je crois qu'au moins pendant les 8 ans qu'Obama a été président, chef d'État, il a tout essayé pour essayer d'équilibrer l'économie. Ce qu'on a vu, c'est qu'avec Obamacare, ça a quand même été accepté. C'est la première fois qu'on a une assurance globale pour la plupart des Américains, parce qu'il faut se dire qu'il y a la moitié des Américains qui n'avaient absolument pas d'assurance au niveau médical. Donc, on voit quand même une évolution. Je crois que le plus gros problème aux États-Unis, et c'est quelque chose où on n'en parle pas assez, c'est le fait qu'en fait, le Congrès a quand même le droit de vote sur tellement de choses que c'est très difficile quand on est président et qu'on essaye d'être ouvert d'esprit et mettre en place en fait tous ces différents programmes qui essayent de protéger le peuple américain, que souvent en fait malheureusement ça ne passe pas au niveau du Congrès. Donc c'est pas toujours, on dit souvent que c'est la faute du président, non, je dirais souvent que malheureusement c'est la faute en fait du système américain qui ne fonctionne plus très bien.
Sandrine Dixon qui a un pied sur les deux continents puisqu'elle est active chez nous hein, dans une agence des Nations Unies pour le développement durable de l'énergie, puis elle a grandi là-bas aux États-Unis. Lui, il a fait le chemin inverse, il a grandi chez nous, il a fait fortune aux États-Unis. Ça a été galère au départ, vous êtes parti pour faire des études, vous ne saviez pas que vous alliez vous installer sur place en fait, Jérémy Levine.
Tout à fait, en fait... Ça n'a jamais vraiment été un rêve américain, pour être honnête. Je devais à la base partir pour 2 ans. Donc c'était un bref séjour aux États-Unis, le temps de s'enrichir un maximum au niveau compétences et puis revenir en Belgique pour justement apporter toutes ces compétences américaines en Belgique. Le destin en a voulu autrement. Et comme vous disiez, Adrien, beaucoup de galères au début. Je pense qu'on ne le cite pas assez souvent pour les expatriés. C'est pas évident d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas. Bon, la langue est encore relativement facile à acquérir, mais je pense aussi surtout l'intégration sociale et n'était pas forcément toujours évidente. Quitter son pays demande déjà les habitudes, etc. Ça demande déjà un certain effort. Et puis le fait de s'intégrer, de vraiment bien se mettre dans le moule ne fonctionne pas forcément pour tout le monde. Surtout au début, en fait.
Ouais, et pas avoir peur de l'échec. Vous vous êtes planté plein de fois. Vous avez travaillé comme un fou.
Oui, je pense. Oui, voilà, exactement. C'est vrai que ce point de vue-là aussi, on le cite malheureusement pas assez souvent, mais le fait de prendre des risques et aussi toujours garder la tête haute et vouloir continuer. Et puis aussi, voilà, c'est aussi faire des concessions. J'aurais pu décider de rester en Belgique et prendre une toute autre voie qui aurait été très bien aussi, mais j'ai décidé de voilà, focaliser sur, entre guillemets, ma carrière et puis la rencontre d'autres individus outre-Atlantique. Voilà, donc c'est clair que ce n'était pas forcément évident. Beaucoup d'échecs aussi, c'est-à-dire, je veux dire, le boulot n'était pas forcément facile, les demandes de visa, des galères.
C'est le thème du petit clin d'œil qui arrive. Long is the road hein, pour avoir ce visa et ce nom sur un visa pour les USA. Vous l'avez eu en quelle année? Parce que ça fait 10 ans que vous êtes aux États-Unis, mais il a fallu un petit peu être créatif au départ.
Oui, en fait, je suis rentré par une porte, entre guillemets, plus ou moins facile, qui est celle des étudiants. Donc j'étais sur un visa de type F1, et puis, bon, parce que chaque visa a une lettre et un numéro, et du coup, au fil des années, bon, il faut s'y intéresser parce que c'est un peu le seul moyen de rester aux États-Unis. Donc, l'administration Obama a poussé à plusieurs reprises des start-up visa et autres qui ne sont malheureusement pas encore tout à fait passées. Mais voilà, les choses évoluent et je pense que certaines choses sont déjà plus faciles à obtenir, certains visas par rapport à il y a quelques années. Et puis, y a les communautés d'entrepreneurs et les communautés d'expatriés sont aussi là pour s'entraider, donc c'est ça qui est génial. Il y a ce qu'on appelle aussi ici aux États-Unis le pay forward, donc c'est-à-dire qu'on va, entre guillemets, investir du temps, investir de l'énergie dans d'autres personnes en attendant pas forcément quelque chose en retour, mais justement en disant on va les aider en amont et puis en espérant qu'eux puissent aussi nous aider à un moment ou à un autre si on a besoin. Et grâce à ça, j'ai eu d'autres entrepreneurs qui ont cru en moi, qui ont sponsorisé un visa ou qui m'ont aidé à comprendre comment le système fonctionnait. Les cartes vertes, etc. Donc voilà. Donc au final, j'ai pu tracer mon chemin et j'ai pu trouver la ligne directrice, mais ce n'était pas joué d'avance.
Ouais, c'était pas comme une autoroute américaine, une grande tout droit, quoi. Il y a eu quelques détours pour arriver finalement à Sunrise. Dans quelques instants, vous nous présenterez cette application qui vous a rendu multimillionnaire. On écoute tout d'abord la révélation soul music de la côte est, Alan Stone sur la première.
Vous aussi, vous connaissez des Belges du bout du monde? Livrez-nous vos bons plans et vos contacts sur Twitter via le hashtag BBDMRTBF.
Perfect World, c'était Alan Stone sur la première aux États-Unis ce matin en compagnie de Jérémy Levine, concepteur de Sunrise, et Sandrine Dixon qui est entre autres, parce qu'elle a une très grande carte de visite, porte-parole des démocrates américains en Belgique.
Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF.
Jérémy Levan, notre Belge du bout du monde, créateur de Sunrise. Alors, pour quelqu'un qui aurait passé quelques années sur la Lune et qui arriverait sur notre planète aujourd'hui, c'est quoi Sunrise, Jérémy ?
Sunrise, c'est très simple, c'est un agenda connecté. Donc, en gros, ce qu'on a voulu faire, c'est prendre la version actuelle d'un calendrier et l'améliorer en y ajoutant différentes connexions, c'est-à-dire vers LinkedIn, Facebook, Tripit pour les voyages. Donc, connecter un maximum de services dans un calendrier, parce qu'aujourd'hui, on est connecté à tout point de vue. Donc pour nous, ça avait du sens de créer un agenda connecté, justement.
Alors, vous l'avez vendu à Microsoft. Ça s'est passé comment ? On est allé vous repérer ? Vous avez demandé rendez-vous à Bill Gates ? Racontez-nous un peu l'histoire.
J'aurais bien voulu prendre rendez-vous. Non, en fait, c'est Microsoft qui s'est intéressé à nous. Donc, nous, on construisait notre agenda dans notre coin à New York. On était une petite équipe. À l'époque, on était 12 personnes, donc relativement petit. Et Microsoft qui, eux, s'intéressent. C'est ça qui est aussi intéressant comme dynamique aux États-Unis, c'est qu'autant les petits poissons s'intéressent aux grands, à savoir, tiens, qu'est-ce que Google fait, qu'est-ce qu'Apple et Microsoft sont en train de mijoter en ce moment, autant les grandes multinationales s'intéressent aussi à ce que font les petits joueurs. Et du coup, Microsoft est venu toquer à notre porte, tout simplement, et du coup, s'intéressait à la technologie qu'on avait construite derrière. On avait construit une équipe, donc, relativement spécialiste vu le nombre de personnes actives dans Sunrise. Et du coup, voilà, la synergie pour eux avait énormément de sens parce que Microsoft, il ne faut pas l'oublier, c'est Outlook. Outlook, c'est le concurrent de Lotus Notes IBM à l'époque et aujourd'hui représente, j'ai envie de dire, 90% de la taille de marché au niveau business, donc au niveau infrastructure, email, calendrier. Donc, ça a énormément de sens pour eux d'intégrer une start-up comme Sunrise dans leurs équipes. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, nos équipes travaillent directement sur l'application Outlook Mobile. Donc Outlook, qui est un peu, entre guillemets, un dinosaure et existe depuis une bonne dizaine d'années, voire un peu plus, avait une présence principalement sur Windows, un tout petit peu sur Mac, surtout sur le web. Et du coup, avait besoin d'une présence sur le mobile parce qu'aujourd'hui, voilà, on est tous sur nos smartphones. Donc Sunrise fait partie, en fait, de aujourd'hui l'application Outlook Mobile principalement.
Ouais, et vous avez quitté le monde des petits poissons, vous êtes maintenant passé chez les gros, vous travaillez pour Microsoft, vous êtes directeur design sur Outlook Mobile, c'est ça ?
Tout à fait, oui. Donc on a pu gracieusement garder notre bureau ici à New York, parce qu'on a un certain mode de vie. Le siège de Microsoft est basé à Seattle, et Seattle est très sympa, mais fort différent de New York. Et du coup, Microsoft comprenait qu'on devait garder notre indépendance d'une certaine manière et nous a laissé cette indépendance. Donc on a des bureaux à San Francisco, on a des bureaux à New York qui sont nos bureaux principaux pour nous et puis les bureaux la maison mère à Seattle.
Ouais, ouais. Vous vivez pour l'instant à Brooklyn hein, avec votre toute nouvelle, enfin votre nouvelle, votre première et votre femme en fait, votre épouse. Vous êtes jeune marié depuis 8 jours. Attention, ce que je raconte moi. Vous vivez ensemble à Brooklyn, vous travaillez à Manhattan et vous êtes passionné de photos. Donc même si vous travaillez comme un fou, vous avez l'occasion de sortir peut-être de l'appareil qui est directement intégré au smartphone.
Disons que moi oui tout à fait, c'est très pratique, mais je suis aussi un grand fan de photographie animalière, donc
Il faut des téléobjectifs, hein, c'est mieux.
Voilà, exactement.
Bon, bah, écoutez, c'est vraiment génial de vous entendre. Ça fait rêver, ça va inspirer aussi peut-être plein de jeunes qui se débattent aujourd'hui dans l'impasse du sous-emploi. Faut pas avoir peur, faut y aller. Et si on se plante, faut réessayer autre chose. Faites comme Jérémy Levan. Un petit mot avec vous, Catherine Tonero, juste avant que vous ne boucliez vos mâles pour les États-Unis. On va parler des perspectives américaines. Tout le monde retient son souffle à 6 semaines maintenant du scrutin.
Oui, un scrutin historique et inédit à plus d'un titre. Hein. Après le premier président noir de l'histoire américaine, la première femme investie candidate démocrate, Hillary Clinton, qui est aussi une ancienne première dame et a été secrétaire d'État sous Obama. Face à elle, côté républicain, un profil plus qu'atypique, Donald Trump est à la base un riche homme d'affaires, présentateur d'une émission de télé-réalité. Jamais il n'a occupé de fonction publique. Un ovni politique qui a multiplié les frasques durant cette campagne tout sauf sereine sur fond de tensions sociales et raciales. spécial.
À l'opposé, hein, évidemment, deux candidats pour deux Amériques différentes.
Oui, ils agrègent des publics très différents. On pourrait dire les femmes et minorités pour Clinton, les hommes blancs de classe populaire pour Trump. La société américaine n'aura probablement jamais été aussi divisée et ses défis sont nombreux. Inégalité croissante, contrôle des armes à feu, immigration, environnement. On attend de voir comment le plus gros pollueur de la planète va mettre en œuvre l'accord de Paris sur le climat qu'il vient de ratifier. Sécurité aussi, la crainte d'attentats terroristes qui vient d'être ravivée par ces explosions survenues à New York. Autant de thèmes de campagne pour les deux candidats. La remontée de Donald Trump dans les derniers sondages donne des sueurs froides au camp démocrate. La récente pneumonie d'Hillary Clinton est passée par là. Tous les regards sont à présent tournés vers les trois grands débats télévisés à venir. Coup d'envoi de la dernière ligne droite de la campagne. Le premier débat, eh bien, il aura lieu demain et promet de nouveaux records d'audience aux États-Unis comme à travers le monde.
On va suivre ça de très près. Vous serez sur place, je le rappelle, pour la RTBF et différents médias européens. Catherine Tonero, vous êtes à 6000 km de Jérémy, mais vous ne vivez plus que pour ça aussi, Sandrine Nixon. Pour l'instant, vous êtes hyper branchée campagne américaine.
Oui, très branchée. Comme j'étais à Washington et New York la semaine dernière, en plein dedans. Bien sûr, toutes les discussions autour de la pneumonie, puis les discussions au niveau aussi d'Obama et d'où il est né, et le fait que Trump a enfin admis que Obama était né en fait aux États-Unis. Je crois que ce qui est assez incroyable, c'est la différence, et c'est absolument correct ce qu'on dit. C'est vraiment deux représentants tout à fait différents au niveau des États-Unis.
Je ne vous demande pas pour qui vous allez voter, Sandrine. J'ai ma petite idée. Jérémy, je ne vous demande pas non plus, quoique j'ai mon idée aussi, mais vous allez pouvoir participer à ces élections présidentielles. C'est belge aux États-Unis, ça vote pour les présidents ?
Malheureusement non, il faut être américain. Donc... Même en étant, je ne suis pas, mais même en ayant la green card, la carte verte, on ne peut pas voter, donc il faut avoir le passeport américain, la nationalité américaine, pour pouvoir voter.
Mais vous gardez votre passeport belge, vous êtes fier d'être belge en fait, Jérémy.
Tout à fait.
Ah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. On vous souhaite bonne continuation, vraiment c'était un bonheur de parler avec vous deux, Jérémy, Ariane. Quand on est multimillionnaire comme ça, on fait un voyage de noces en Belgique ou on va plus loin? Quels sont vos plans tous les deux?
On ne sait pas encore très bien, justement. Donc, on verra. Il y a le boulot qui nous rappelle aussi.
Ah, oui. Donc, on peut être multimillionnaire, mais pensez à continuer à travailler. C'est jamais acquis, en fait.
Tout à fait. Ouais. C'est peut-être la culture américaine qui nous rattrape.
Ouais. Ouais. Bon, ben, on vous embrasse tous les deux. Je vous envoie Catherine Tonero dans quelques jours.
Oui, j'arrive dans quelques semaines.
Faites-nous signe.
Bye bye.
Beaucoup de courage, merci. Jérémy et Ariane.
Merci Sandrine, merci Adrien.
Merci à vous et merci à Paul-Michel qui réalise cette émission. La semaine prochaine, nous prendrons la direction du pays des mille collines en compagnie du chanteur-écrivain Gaël Faye. D'ici là, restez fidèles à la première. Dans un instant, un autre féru de nouvelles technologies, Alain Gerlache avec ses décodeurs RTBF. Podcast.